Ça va toi aujourd'hui?
Là je me sens bizarre.
Je sais pas,
je suis pas du tout, je te jure.
Oh, j'ai encore un truc à dire.
Non, ça va pas trop.
Oh là là, je me sens bizarre.
Non, c'est comme chez un psy, je raconte.
J'ai encore un truc à dire.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Mais qu'est-ce que ça raconte?
Bah ouais, on passe à la radio.
Silence Radio, la radio des schizos, la radio des parano, la radio des gens pas réglo.
Silence Radio, la radio des gens pas réglo, la radio des gens comme il faut, voilà. Nous sommes particulièrement ravis de vous retrouver, puisque, en effet, nous aussi, nous avons été confinés le temps de 3 longs mois. Et ce sont donc 3 émissions qui sont passées à la trappe, celles de mars, avril et mai. C'est vous dire tout le bonheur que j'ai d'accueillir ce soir, non pas dans les studios de Panique, parce que un peu trop exigu, mais dans les locaux de notre association soutenante qui est L'Autre Lieu, et grâce au studio volant de Radio Panique, nous sommes heureux d'accueillir tous nos invités et chroniqueurs. J'espère que ces longs mois n'ont pas été pour vous trop douloureux, trop ennuyeux, trop pénibles, trop cruels, trop désolants, j'en passe, enfin trop éprouvants pour votre chère santé mentale. Alors de santé mentale, nous en parlons toujours à Silence Radio, mais pas n'importe comment, loin s'en faut, avec esprit critique et pas avec n'importe qui non plus. Ici, chez nous, on aime inviter des gens qui ont des choses à dire et pas seulement des experts en santé mentale, des experts comme des psys. Mais on ne les boude pas tout à fait les psys d'ailleurs, puisque ce soir nous avons invité une psychologue clinicienne en la personne de Barbara Pochet. Bonsoir Barbara.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue, donc vous avez travaillé à la plateforme santé mentale de Bruxelles et vous êtes spécialisée en addiction. Oui.
En tout cas, je travaille à la plateforme de concertation.
D'accord, ok, c'est ça. Voilà, vous travaillez à la plateforme de santé mentale, vous avez suivi, analysé les répercussions sur la santé mentale des gens durant cette période de confinement, c'est ça?
Oui.
Voilà. Seconde invitée, donc on a le plaisir de recevoir Hélène Guedec, que nous connaissons bien, puisque tu as participé, tu as fait longtemps partie en son temps de l'équipe de Psylance, et tu nous raconteras comment toi, très personnellement, tu as mis au point des stratégies pour traverser cette période le plus sereinement possible.
Merci.
Voilà, bonsoir Mira. Donc,
bonsoir.
Nous te connaissons bien aussi, puisque à Psylance, puisque tu as été régulièrement invitée, et à plusieurs reprises. Ce soir, tu viens avec un comparse, s'appelle Sébastien. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Vous allez nous parler d'un nouveau mouvement né durant le confinement et qui s'appelle « Nous sommes la première ligne ». C'est ça?
C'est ça.
Voilà. C'est un mouvement qui est né pour, je cite, « proposer une autre voie pour faire société, pour habiter le monde en remettant l'humain au centre ». Voilà. À tout à l'heure, donc on reviendra évidemment vers vous. Le temps encore de vous présenter les chroniqueurs. Qui est là ce soir? Valérie. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Thomas, bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Et une nouvelle venue, une nouvelle recrue à Psylance Radio. Bienvenue Sana, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, enfin la technique Octavie et Suzy. Et enfin... à la préparation de cette émission, Julie et Aurélie. Je n'oublie pas Gwendoline qui est une chroniqueuse de Psylance Radio, qui n'a pas pu être présente physiquement ce soir, mais qui nous a laissé un petit billet sur son confinement à elle. Je vous propose de l'écouter, elle est au micro de Thomas.
Mon confinement causé par la pandémie actuelle se passe avec ses bons et mauvais côtés. Le confinement se passe bien et je fais tout un travail sur moi. Je vis bien le confinement, la solitude, voire l'isolement actuellement. Depuis 1 ou 2 mois, je passe la plupart de mon temps seule ou en famille et à essayer d'avancer sur des projets que je personnalise ainsi qu'à prendre conscience de la crise actuelle. Avant tout, j'essaye de garder un regard positif malgré la difficulté de la situation. J'ai le sentiment que le temps nous est compté, mais il faut avant tout être au courant des conditions actuelles liées à la pandémie du coronavirus. Pour garder un regard positif, il faut avant tout comprendre la situation et rester informé, et se sentir concerné en tant que citoyen du monde. Rappelons brièvement que la pandémie du coronavirus a poussé le gouvernement à prendre des mesures collectives imposées à tous pour atteindre un seuil d'immunité collective en attendant de trouver le remède, le vaccin, qui permettra de guérir vite et mieux de la maladie ou les produits ou les crèmes adéquates pour lutter contre les symptômes viraux et pneumatiques et le mode de transmission interhumaine, postillon, tout de ce virus. Les mesures prises par l'État sont collectives et actuellement obligatoires. Elle demande de prendre un peu sur soi et de garder le calme. Le confinement implique de le respecter. Je rappelle qu'il s'agit grosso modo respecter les mesures d'hygiène, bien se laver le corps, les mains plusieurs fois par jour, utiliser des mouchoirs en papier à une reprise, respecter la distanciation sociale, rester à une distance de 1,50 m quand on sort, porter par exemple un masque, respecter les mesures de confinement en matière de travail, de santé, sport, courses, transport et obsèques, tenir bon sur le long terme et rester calme. Et enfin, éviter les personnes à risque. Il faut comprendre que cette crise est globale et également environnementale. J'essaye, tout en prenant en compte de la crise actuelle, d'améliorer ma qualité de vie en travaillant sur la prévention et sur moi-même. J'améliore ma qualité de vie à différents niveaux. Je travaille sur mon quotidien, déjà poussé par des difficultés personnelles. Je me rends autonome et je me soigne. Je prends des médicaments nécessaires à ma survie, ainsi que des compléments pour renforcer mon système immunitaire et diminuer le stress. J'améliore mon quotidien, je mange plus sainement, respecter le nombre de repas par jour et l'apport de différents types d'aliments, je bois de l'eau de qualité, je prends les mesures d'hygiène très strictes personnelles et je nettoie et dépoussière mon appartement quotidiennement, je fais la vaisselle, je fais mon linge, je passe l'aspirateur. Bref, je vise une autonomie personnelle. Je fais des exercices d'étirement, je me réhabitue au soleil, je fais des exercices de respiration et de voir car j'ai des fragilités de santé au-delà de mes projets plus personnels. J'essaye de retrouver le souffle, d'arrêter de fumer, d'être meilleur psychologue et de travailler à la fois le corps et l'esprit. J'essaye de lire et d'écrire, d'améliorer ma mémoire, ma concentration, mes qualités, mes valeurs. Et je sors une fois par jour ou une fois tous les deux jours avec un masque. Grosso modo, je me recommande à moi-même ce qui s'impose et les conseils qu'on peut lire dans les journaux. Reconnaître les symptômes, respecter l'ordonnance du médecin, éviter l'automédication, avoir un suivi médical régulier, reconnaître les signes qui doivent inquiéter, maintenir une bonne hydratation, continuer de s'alimenter, améliorer son confort respiratoire, se reposer et écouter son corps, ne pas rester alité pour autant et enfin prendre du recul. J'apprends que la solitude peut créer des perturbations psychologiques car l'absence de relations humaines peut engendrer des difficultés. Par exemple, un sentiment de solitude, des difficultés de communication. Je regarde alors un peu la télé, je reste connectée sur la toile du web, je passe des coups de téléphone à mes amis, j'essaye de ne pas perdre mon temps car le temps peut vite nous rattraper face à la situation. Je lis, j'écris, je me divertis, je vais voir le psy, etc. Je me sens moins bien qu'avant le confinement car je pense que je ne sous-estime pas la difficulté de la situation liée à la pandémie. On n'est pas à l'abri de la maladie, de la mort ou de la rechute, mais il faut garder espoir. Je me remets à suivre tout doucement les actualités et à faire une veille médiatique.
Ben voilà, c'était Gwendoline donc, qui racontait un petit peu comment elle vivait ce confinement. Quelqu'un peut-être parmi nos chroniqueurs, nos invités éventuellement aussi, a envie de réagir à ce billet de Gwendoline qui est quand même un fort en je fais ça, je fais plein de choses en fait, je fais plein de choses. Non ?
Moi j'ai fait vraiment très très peu de choses. Pendant, voilà, j'ai pas été touché par le Covid, mais j'ai été touché par je sais pas quoi. Mais non, moi je me suis pas dit que... non, ça... En fait, Gwendoline, elle parle, elle dit « garder un regard positif lié à l'évolution de la situation ». Pour moi, il n'y avait pas de situation. Donc j'étais fort dans la solitude, comme je pense que la grande majorité des gens l'ont vécu comme ça, je crois. Et donc, j'étais en moi-même, quoi. Et je trouve pas ça hyper intéressant de rester en soi-même. Enfin, il n'y a pas grand-chose d'extérieur qui me permettait de m'y projeter. Et voilà. Donc, moi, je n'ai pas trouvé ça enrichissant pour un sou. Je m'en serais passé, mais 1000 fois. Ça n'a pas été une opportunité pour moi de découvrir des choses.
C'était voilà. Pas une opportunité pour toi de découvrir des choses en toi, ou de l'occasion de remise en question, de prise de recul ou quoi, non?
Non, parce que je trouve que ça, enfin moi personnellement en tout cas, ça se passe par de l'action, par des choses que je fais et qui ont un sens dans un contexte plus global. Et là, c'est comme si on me retire le contexte.
D'accord. Donc, Et Hélène, peut-être toi, tu as vécu les choses un petit peu différemment, dans le sens où j'ai eu l'impression que dans ce que tu racontais, c'était vraiment mettre des stratégies vraiment en place.
En fait, c'est venu progressivement. J'ai commencé à me rendre compte du confinement quand il y a vraiment eu les premières mesures qui ont été prises. Et la première semaine, en fait, je me suis abrutie devant la télé. J'ai fumé clope sur clope. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, ça va pas le faire. Donc du coup, je me suis mis, oui, un cadre. Faut savoir que d'habitude, j'ai beaucoup de mal à m'organiser. Structurer une journée est quelque chose qui est compliqué pour moi. Et donc du coup je me suis accordé des plages horaires pour la télé, et au même moment l'autre lieu a proposé des activités à faire chez soi, mais en même temps avec une dimension collective, parce qu'on a utilisé une plateforme qui permet de construire collectivement un texte. Donc j'ai fait ça. Il y a eu aussi des missions à faire dans le cadre d'une campagne qui sera autour du terme s'abriter, le mélange entre habiter et abri. Et donc j'ai fait ces activités-là. Le matin, en fait, je me disais, bon, bah, telle heure, tu fais telle chose. Tu t'accordes des plages aussi de repos, ou des choses comme ça. Donc, c'est essentiellement les activités que j'ai eues. Mmh. Ça m'occupait quand même 2 à 3 heures par jour. Ensuite, j'ai participé aussi à une réflexion proposée par une amie qui prépare une pièce de théâtre sur la schizophrénie. Elle avait eu carte blanche à Liège l'année dernière. Et donc, elle avait plusieurs questions sur le sujet. Donc, Je me suis penchée aussi là-dessus. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui a été crucial pour moi, ça a été le soutien de ma mère et de mon frère qui habitent à 900 km d'ici. Donc, vivre seul pendant le confinement, ça n'a pas toujours été facile. Et en fait, j'ai un frère qui est vraiment génial parce qu'il m'appelait tous les soirs. Et aussi avec ma mère, en fait, on avait 2 rendez-vous par jour. Le matin, on se prenait une demi-heure de gym. Voilà, donc bon, ça occupe un peu la matinée, et en même temps, ça permet de se remettre, de dérouiller. Et aussi, en fin d'après-midi, on se retrouvait pour faire des activités créatives, donc soit faire les ateliers d'écriture proposés par l'autre lieu. Ça a vraiment été vital. Une vraie bouffée d'air. Voilà, on a fait du collage aussi. Enfin, j'ai essayé en fait de retranscrire la manière dont mes journées s'organisaient avant le confinement, avec des repères comme l'autre lieu et d'autres associations. Mmh. Et donc je les ai retranscrites dans mon quotidien.
Okay. Et ça t'a permis de sortir peut-être aussi de cette solitude dont parlait Thomas. Et Barbara Pochet, donc la solitude, je suppose que c'est un mot qui est revenu souvent dans les analyses. Et comment ça se passait, pour les gens, en fait, au niveau psychologique, de manière générale? Je suppose qu'on en... Bon, on a bien des idées, on s'imagine plein de choses, mais est-ce qu'il y a eu des sources d'étonnement par rapport à...
ce que je dirais, d'abord pour réagir au témoignage et à celui qu'on vient d'entendre avec Gwendoline aussi, c'est voilà, la diversité des stratégies pour faire face aux situations, saluer aussi les capacités d'adaptation, les ressources, les résistances qui sont mises en place aussi pour faire face à cette situation qui était inédite. Et ça a mis tout le monde au défi, en tout cas en termes d'adaptation. Maintenant, ce que j'entends aussi, c'est l'importance d'avoir des informations qui sont claires, qui sont cohérentes. Comment est-ce que le soutien social collectif, l'entourage proche aussi, peut vraiment venir soutenir pour faire face. Et plus particulièrement, les trois enquêtes qu'on a lancées, qui sont en cours pour l'instant et qui interrogent aussi les usagers et le personnel soignant, ce qu'on voit, c'est que, en effet, la solitude est un facteur fragilisant, l'isolement social, effectivement, pour faire face à cette situation, mais aussi d'autres choses, comme la difficulté aussi à rythmer ses journées, son quotidien sans le soutien du collectif. Et puis beaucoup de personnes qui se sont retrouvées aussi dans le stress, dans l'inquiétude, dans particulièrement des femmes. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir d'une cinquantaine d'années, c'est cumulé solitude, isolement, plus anxiété. Ça crée des facteurs déclencheurs, fragilisants pour faire face à la situation. Maintenant, un petit pourcentage comme ça de personnes s'en sortent en ayant bien vécu, voire trouvent du positif. Et puis une petite minorité aussi qui n'y a pas d'effet comme ça.
Hélène, tu avais envie de réagir ?
Oui. Par rapport à la capsule qu'on vient d'entendre de Gwendoline.
Oui.
J'ai trouvé intéressant une chose, c'est qu'elle parle non seulement de la sphère privée, donc de ces stratégies qu'elle a mises en place, et il y a un autre aspect aussi, je ne sais pas si on va revenir plus tard là-dessus, qui est la sphère collective, c'est-à-dire les réflexions qui ont émergé de cette situation-là, en fait, par rapport à la société dans laquelle on voudrait être. Je pense qu'il y a eu pas mal d'initiatives et peut-être qu'on en saura plus la vôtre.
Mais voilà, c'est la transition est toute assurée. Donc en fait, Mira et Sébastien, vous aviez eu envie de lancer un mouvement. C'est pourquoi en fait, c'est cette période de confinement qui vous a donné cette envie ou bien c'était déjà auparavant ou comment ça s'est passé?
Je vais répondre moi parce que je dois assumer l'origine de quelque chose. Mais je vais essayer d'expliquer et puis de refaire la jonction avec ce qu'on vient d'entendre. Moi, j'ai commencé un confinement de manière très angoissée et très fâchée par l'absurdité de la chose en termes de santé publique et le maelstrom paradoxal dans lequel ça a mis les gens, et je trouve qu'on l'entend très bien aussi ici dans la capsule, c'est un monde de paradoxes. C'est en même temps, je suis seul, mais j'ai une augmentation terrible de la connectivité. Je suis seul, mais je recrée des contacts très forts. Je dois pas bouger, mais je dois être très productif. Et donc, je pense que ça nous a plongés tous dans un monde de paradoxes, et ça, chacun l'a vécu à sa sauce. Donc moi, j'ai commencé très fâchée, surtout très fâchée sur l'absence totale de stratégie de prévention par rapport à l'épidémie. Et on entend ici aussi faire une immunité collective en enfermant les gens tout seuls chez eux. Enfin, ça marche pas non plus en termes de santé publique. Donc bref, nous, on a commencé... Moi, j'ai, sur le constat, en fait, et ce qui m'a fâchée au départ, c'était l'absence totale de tests. Et il n'y a aucune stratégie de lutte contre une épidémie qui se passe de tests. Et donc là, j'ai commencé à contacter des amis, principalement. Moi, je travaille dans le domaine de la santé, donc dans ce domaine-là. On a commencé à essayer de formaliser un coup de gueule, et puis de formalisation en formalisation, on est arrivé à un prisme beaucoup plus large. De dire, en fait, ce qui se passe, c'est que donc on est démunis de moyens de lutte contre l'épidémie. On n'a pas de masque, on n'a pas de tests, on n'a pas de médicaments. En fait, tout ce qu'on a, c'est nos corps. Alors qu'il s'agisse de mettre les corps en situation de combat dans les hôpitaux, ou qu'il s'agisse de confiner les corps pour pas surcharger le système hospitalier et qu'il n'y ait pas trop de malades, parce que la première idée du confinement, c'est quand même d'éviter une surcharge hospitalière. Finalement, on est tous pris dans cette première vague d'agents qui luttent contre l'épidémie. Donc il y a vraiment une rhétorique militaire là-dedans. Et il s'agissait de dire non, c'est pas que les infirmiers, c'est tout le monde. Je veux dire, qu'on soit infirmier, qu'on soit vendeur dans un supermarché, qu'on soit balayeur de rue, enfin tous ces gens qui sont restés en travail, nous aussi confinés, nous participons de cette première ligne qui lutte avec, pour se larme son corps, contre l'épidémie. Donc ça, la première idée de première ligne, c'était de dire non, on est tous partie prenante et on est contre la division des forces. Parce que si on nous divise, on ne pourra pas lutter, on va perdre cette masse qui pourrait ne pas être d'accord, se révolter. Ça, c'était le premier mouvement. Après, il y a un deuxième mouvement, mais tu me compléteras. C'était un moment dont on pouvait se saisir, ce confinement. C'était un moment mondial d'arrêt. Je crois que c'est 6 êtres humains sur 10 dans le monde à l'arrêt. C'est de la science-fiction, quoi. Mais donc, c'était une occasion. Et je pense qu'il y a eu pour nous, petit à petit, une fois que les premières angoisses, en tout cas pour ma part, elles s'étaient calmées, c'était saisir le moment pour en faire quelque chose. Et pas dans cette injonction à être productif, mais en tout cas chez moi, ce que ça a donné, c'est lâcher, c'est remettre en question finalement tout ce qui... tout ce dont le sens n'apparaissait plus. J'ai un petit garçon de 7 ans qui voulait plus s'habiller le matin. Il voulait faire des journées pyjama. Et à part une espèce de norme de dire « Ah ben non, c'est bien de garder un rythme, on s'habille », j'ai plus su le forcer à s'habiller, je comprenais. Et s'il voulait rester en pyjama, ben ma foi, pourquoi pas. Petit à petit, j'ai recompris pourquoi, à quel moment, c'est bien de s'habiller. Mais en tout cas, ça m'a permis de vraiment de remettre en question énormément d'injonctions quotidiennes. Voilà. Et donc l'idée aussi de première ligne, c'était de dire d'abord non, on est tous ensemble, ça c'était un, de dire on refuse que les mêmes personnes qui ont amené à cette crise, parce que cette crise elle est liée pas tant à l'épidémie, enfin à mon sens, qu'à un problème de gestion politique des stratégies de prévention. Les masques, on était censé les avoir, il y avait des plans, on est censé avoir des masques, l'épidémie, on savait qu'elle arrivait, tout ça, c'était prévisible, donc c'est un problème de gestion, à mon sens, majoritairement politique. C'est un problème de peur, ils ont eu peur, nos politiques, ils ont eu peur qu'on voit dans les médias des images de files dans les hôpitaux. Mais non, les images qu'on voit dans les médias de gens qui font la file pour avoir de l'aide alimentaire, ça n'a pas l'air de les gêner. Moi, ça me gêne assez fort, mais donc... Enfin, moi, je remets très fort en question ces choix-là. Mais donc, c'était de dire aussi, on va pas laisser ceux qui ont généré cette crise apporter les réponses. Et on ne veut pas de recommencer demain comme hier. Et je pense que moi, les questions qui m'intéressent maintenant, enfin, je dis moi, en gros, on est 2,5 maintenant dans première ligne. On était 8.
Vous êtes combien ?
On est 2,5.
2,5 ?
Voilà, mais 2,5, c'est déjà ça. Non, d'ailleurs, c'est marrant de parler d'un nouveau mouvement, parce que c'est un peu, pour nous, un petit décalage, parce qu'on est 2,5, mais il y a un Facebook, il y a un site internet.
Sébastien, tu avais envie de dire quelque chose en plus, de rajouter quelque chose ? Non, pas spécialement, non, voilà, ok, d'accord. Sana, peut-être, oui.
Donc, je voudrais vous poser une question par rapport à votre collectif. Est-ce que vous avez des actions concrètes dans le futur pour faire changer les choses ? Parce que les choses commencent à reprendre la normale. La vie revient à son rythme, stress, voiture dans les rues, voilà, embouteillage. Mais je me dis, est-ce que vous avez vraiment des actions concrètes d'aller parler au gouvernement, voilà, de votre mouvement, et comment vous comptez vous faire connaître, même si vous avez un site ou.
Alors, question gouvernement, on n'en a pas. Hein. Donc, il n'y a pas techniquement d'interlocuteur. Enfin, non, mais c'est important quand on voit toutes les opinions, Madame Wilmès. Non, on a un gouvernement pour le moment qui est provisoire. Enfin bon, donc. Techniquement parlant, on peut se questionner là-dessus. Non, on n'a aucune velléité de devenir des interlocuteurs de la société civile ou pour parler aux politiques. Moi, je pense que les questions ici, mais non, si on est contre la reprise, ça c'est mon... Enfin, c'est vraiment voir chacun pour soi comment résister, où résister, et puis comment mettre ses résistances en commun. Et par exemple, un tout petit exemple, hein, mais moi, j'ai plus envie, je suis cycliste, j'ai beaucoup aimé de rouler dans des rues vides, je ne veux plus m'énerver sur les voitures. Voilà. Et je m'énervais beaucoup sur les voitures, et ben maintenant, je réfléchis, est-ce que je prends mon vélo, est-ce que je vais à pied, est-ce que juste j'y vais pas. Je pense que c'est comment chacun, on va pouvoir faire des petits freins, et l'idéal, déjà, c'est humble comme ambition, mais ce serait, si déjà on pouvait collectiviser toutes ces mini-stratégies, eh ben on peut espérer arriver à un changement, mais ça va être lent. Ça, voilà.
Est-ce que... Ah, Sébastien, quand même, ouais.
Ben, en fait, parmi les choses sur lesquelles on a réfléchi pendant ce confinement et avec cette histoire de première ligne, c'était sur cette question du pour soi. Parce qu'en fait, en réfléchissant, on s'est rendu compte que même quand on parlait sur soi, de résistance, de révolte, de pas d'accord, pour revenir sur la question du gouvernement, la plupart de temps, on parlait au nom de choses qui n'étaient pas du tout pour nous, mais qui étaient des choses entendues ou dites sur ce qui serait juste, injuste, etc., etc. Et il nous semblait que revenir vraiment à la question de juste, en fait, qu'est-ce que c'est ce pour soi, pour soi-même, tout seul, qu'est-ce qui nous fait du plaisir, du bien à nous et à nous vraiment corps, pour revenir sur cette question des corps, était très importante. Et c'est pour ça que, par exemple, au tout début, on parlait de remettre l'humain au centre, mais il ne s'agit pas que de remettre l'humain au centre. En fait, il s'agit de remettre tout ce qu'il y a autour ensemble avec. C'est-à-dire que les plantes, les merles, les voitures qui passent, ce qu'on mange, qu'on regarde à la télé éventuellement, mais sur un même niveau d'appréhension, sans hiérarchiser les choses, nous semblait dans la réflexion de résistance et sur les petites stratégies de résistance extrêmement important. Et on a voulu essayer de rassembler quelques témoignages autour de ça et de repartir de là, en fait, de choses très petites.
Ok. Bah, je propose peut-être d'y revenir tout à l'heure après une petite pause musicale que Valérie va nous présenter, puisque tu es, si tu connaissais bien le groupe Stup et Flip.
Voilà. Attention, attention, Stup Virus. Enfilez vos protections, Stup Virus. Careful, 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 Stup Virus. Put on your virus protection.
Un virus est une petite boule d'acide entourée de protéines. C'est bactériologique, truc chimique, Stup fantôme. Ça te rend paraplégique, psychotique, son posthume. Le truc te soigne par tous les pores, broie ton système. Ce virus est mortel, ouais, pour la vie n'a pas d'estime. Tu contractes des mélodies, t'as la pied caisse claire maladie. Tu vas sombrer dans la folie, car ce son tu c'est affolant.
Stup virus,
truc atroce, ça te laisse en connaissance. Ta liste Spotify infectée par la Stup danse.
Attention, Stup virus,
enlève-moi ce truc de la cervelle.
Stup virus, nique ton cerveau de ta carte à puce.
Attention, Stup virus,
comment je peux m'en débarrasser.
Mec, c'est la poisse, c'est foutu, t'as les symptômes des Stup virus.
Pour éliminer des milliards de personnes.
Stup virus, truc vorace, suite de sang qui te laisse des puces. Te ronge la carapace, le truc te prend l'encéphalus, ça fout la frousse. Et sur YouTube, ferait le pouce, ça provoque des secousses, y'a le bouton replay qui trépasse. Stup virus, boule d'acide, ravage à la région nord. Toujours pas d'antidote, tu ne fabriques plus d'anticorps, c'est hypnotique, pas ton pote. Couleur verte et boule d'azote, c'est pas le sang qui est plaisante, le plus méchant des parasites.
Attention, Stup virus, enlève-moi
ce truc de la cervelle.
Stup virus, nique ton cerveau de ta carte à puce.
Attention, Stup virus,
comment je peux m'en débarrasser.
Mec, c'est la poisse, c'est foutu, t'as les symptômes des Stup virus.
Attention, Stup virus,
enlève-moi ce truc de la cervelle.
Stup virus, nique ton cerveau de ta carte à puce.
Attention, Stup virus,
qui ont éliminé d'un coup des millions de gens.
Le croup pénètre tes oreilles et il te grignote la tête. Il est trop chou comme ces petites qui font la course en trottinette. Et il te ramonne la cervelle, squat tes conduits auditifs. Et il te fait des acouphènes qui resteront définitifs. T'as des fourmis dans le ciboulot, ça devient mou comme du taboulé. T'entends ta cafetière siffler, tu peux pas t'en débarrasser. Le croup t'a lobotomisé, t'es complètement intoxiqué. Il a rongé ton cerf-volant et t'a sucé le cervelet.
Attention, du virus. Allez,
mon truc de la cervelle.
Le virus, nique ton cerveau de ta carte à puce. Attention, du virus.
Comment je peux m'en débarrasser?
Mec, c'est la poisse. T'as les symptômes du virus.
Attention, du virus.
Le stup virus, nique ton cerveau de ta carte à puce.
Attention, du virus.
Oh non, non, j'ai attrapé le stup.
Un virus. Parmi les maladies les plus terrifiantes que nous connaissions.
Voilà, donc retour dans, pas dans les studios de Panique, hein, Ponant, nous sommes dans la, dans les locaux de l'association Autre Lieu, et nous sommes là pour une émission de Psylance Radio. Donc après quelques émissions qui sont passées à la trappe, nous avons toujours en studio, bah non, nous avons autour de la table donc Mira Sébastien, Hélène Guedec, Barbara Pochet et nos chroniqueurs habituels, plus Sana qui vient d'arriver dans notre équipe, voilà. Je sais pas, Thomas, Valérie, Sana, qu'est-ce que vous avez envie d'approfondir en fait sur ce. On a commencé tout à l'heure en parlant de stratégies à mettre en place, enfin qui ont été mises en place. Hein, donc Hélène pendant la période de confinement, sur ce mouvement qui est né d'un ras-le-bol. Qu'est-ce que le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, Mira, donc pour dire votre.
Moi, j'ai parlé de colère.
De colère, voilà. Ok. Donc, Sana.
Donc, moi, je voudrais soulever la question de la protection, parce que c'est ça qui revient un petit peu par rapport à ce débat, de se protéger, justement, de ce virus. Comment se protéger de manière, parce que c'est quelque chose d'invisible, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui est quand même là, dans l'air, et c'est quelque chose qui est d'autant plus effrayant. Et chacun, je pense, a eu une stratégie. Comme disait Gwendoline, elle prenait des vitamines, elle essayait de faire un peu de sport par rapport à ça. Et justement, même psychologiquement aussi, on a comment utiliser les bonnes stratégies pour pouvoir se protéger mentalement. C'est pas toujours évident parce qu'on a une peur et peut-être des problèmes psychologiques derrière. Et comment justement trouver des moyens. Ça, on peut demander même à la psychologue qui est là quels sont peut-être les moyens de protection qu'on développe, c'est peut-être par rapport à son passé, cette force peut-être qu'on a en nous et de s'occuper peut-être, voilà, il y a différentes manières de se protéger physiquement et mentalement, justement, c'est peut-être quelque chose à soulever et
D'accord. Hélène et puis Barbara peut-être.
Oui, merci. Je voulais juste revenir là-dessus. On en avait discuté, Pascal. Il semble, enfin, en discutant autour de moi, je me suis rendu compte que les gens qui ont eu un problème psychique s'en sont sortis peut-être mieux que d'autres personnes ordinaires. C'est-à-dire que quand on est dans la psychiatrie, on sait ce que c'est qu'une crise de panique. On sait ce que c'est que le stress. Et donc, du coup, on est peut-être mieux armé que les autres parce qu'il y a dans certaines familles, il y a eu un burn-out où il va y avoir un burn-out des parents, par exemple, ou un post-traumatique, en fait. Et je sais pas, enfin, Barbara, je serais intéressée d'avoir votre avis là-dessus parce que
ça m'interpelle quand même que les gens dits plus faibles s'en sont sortis pas si mal que ça.
Barbara Pochet, peut-être.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. C'est une pluralité aussi de facteurs, d'indicateurs qui vont faire qu'à un moment donné... Ça devient difficile, fragile. C'est comment est-ce qu'on code la nature et la gravité de la situation. C'est les expériences antérieures de stress. C'est oui, la santé physique, la santé psychique actuelle. C'est nouveau, je répète, la possibilité de pouvoir s'appuyer sur des ressources, une sécurité de base intérieure qui tient le coup, mais aussi l'entourage, les proches. C'est parfois l'âge, le sexe, la culture, les traditions. Enfin, c'est voilà. Donc, j'ai pas de réponse simple à la question de Sana. Comment se protéger, comment cultiver cette sécurité, si ce n'est que moi je crois très fort aux espaces collectifs, et il y a une possibilité de conscientiser ensemble. Et c'est pour rebondir aussi sur ce qui était dit de ce mouvement Mira et Sébastien. Voilà, comment est-ce qu'on peut, faire autrement à partir de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas d'absolu. Ce que vous dites, certaines personnes s'en sont bien sorties, d'autres un peu moins bien. Il faudra être attentif, je pense, dans les prochains mois. Il y a encore des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne mesure pas. Et c'est aussi pouvoir... être juste, attentif à investir ces espaces collectifs, ces espaces publics, chacun à son rythme, autrement aussi. Je crois que si ça a tenu le coup aujourd'hui, c'est grâce d'abord aux ressources des gens, mais aussi d'un système de soins qui tenait quand même la route, un système de sécurité sociale. Alors oui, c'est hautement perfectible. Voilà.
Okay. Peut-être le moment est venu de se changer un peu les idées, hein, Sana. Donc tu nous as préparé une petite histoire sonore que tu vas nous présenter. Ah, d'abord le petit texte. Ok, d'accord. D'abord le petit texte.
Voilà, je voulais justement vous raconter un petit texte qui avait été écrit durant le confinement par Antonia. Donc je vais vous le lire. Le confinement à Bruxelles, c'est avoir mis les bruits en sourdine. Le silence emplit les espaces de sa douceur en une présence enveloppante. J'ouvre souvent mes oreilles, bien grandes, afin de goûter à ce calme. Il me remplit le corps. Je me détends, je m'élargis, je me desserre. Covid-19, Corona, un virus mutant, grand voyageur, ennemi public. Il est pour certains la mort, la perte, la maladie, la pauvreté, l'inquiétude, la souffrance. Il m'a apporté cet apaisement, le rythme de la vie le plus proche de mon rythme. Je me sens moins décalé, moins marginal. Je respire l'air plus pur, je joue dans les silences. J'entends mieux les oiseaux.
Merci Sana. C'est tout, voilà, c'est tout. On revient donc à notre débat. Ah, tu veux aussi peut-être présenter... Bah oui, mais tant qu'on y est, voilà. Donc un deuxième petit texte par Hélène Godec, voilà.
Alors, je me suis posé la question de l'accueil des changements essentiels, en fait, pendant le confinement. Cette crise anormale nous a amenés à ralentir notre rythme de vie et à nous questionner sur notre mode de vie pour qu'il soit plus durable. Je n'ai qu'un seul désir... continuer à faire de la résistance face à notre société de consommation, se regrouper pour proposer des initiatives locales et alternatives. Et également, il serait bon de sortir de cette logique centrée sur le paraître, l'avoir et le superficiel. La fracture sociale entre les habitants a été exacerbée. Et en plus, il y a des grands oubliés qui vivent dans la misère, économique, sociale et psychologique. Et ils sont beaucoup plus nombreux qu'hier.
Voilà. Super. Merci Hélène. Et ça nous amène à la suite du débat de ce soir. Donc, est-ce qu'on a envie de ce monde? Est-ce qu'on a envie du monde avant confinement? Est-ce que moi j'ai l'impression, en tout cas très personnellement, que le naturel revient au galop et que, je sais pas, c'est mon côté pessimiste peut-être, je sais pas, mais en tout cas je crains parfois un peu que les choses reviennent comme avant et qu'on tire pas les leçons ou en tout cas les enseignements de ce confinement et de cette crise. Est-ce que vous avez envie, vous, en fait, de ce monde qu'on avait avant et
en tout cas, je trouve, on a pu constater, en regardant les médias, qu'on parlait vraiment énormément d'économie et très peu de... Enfin, moi, j'étais un peu là en train de me dire, mais quand est-ce qu'ils vont parler des personnes qui sont psychiatrisées, par exemple, même dans les grands médias, parce que j'aurais trouvé ça vachement important que les grands médias, disent... Enfin, parle des personnes qui sont dans des fragilités un peu extrêmes aujourd'hui. C'est vrai qu'on en a parlé par rapport au colis alimentaire, au fil comme ça. Mais au niveau, on parlait des EHPAD aussi, mais au niveau des troubles psychiques, parce que il y a eu une injonction de dire maintenant on se confine. Et puis il y a eu des débats par rapport aux suites donc de la réouverture des commerces aux morts, etc. Mais il y a pas eu vraiment, j'ai pas entendu de discussion sur la dureté de ce confinement, sur ça m'a un peu troublé, je sais pas vous, moi dans les médias j'aurais aimé entendre plusieurs voix qui disent comment les gens le vivaient, ça m'aurait un peu apaisé quoi, tout simplement. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Barbara, quand vous parlez de l'importance du collectif, et puis j'ai eu l'impression que le collectif était pas possible pendant ce temps-là. Et vous, j'ai l'impression que votre désir, avec nous sommes la première ligne, ce serait de refaire du collectif, non, par rapport à, et vous parliez aussi des différents éléments extérieurs comme des voitures, des oiseaux, etc., et qu'il n'y aurait plus d'hiérarchie. Et oui, ça m'a interpellé assez. Est-ce que vous trouvez que par le fait d'être passé par le confinement, ça vous a vraiment changé votre vision de votre place dans le collectif?
Ouais. Bon, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai regretté beaucoup de choses que j'ai pas entendues dans les médias. Et je pense que là, les médias ont vraiment montré pour qui ils travaillaient. Il y a énormément de choses que j'aurais bien aimé entendre. Moi, j'ai l'impression, personnellement, que la reprise est beaucoup plus violente que le confinement. Je trouve que ça, enfin, moi, l'effet que ça me fait, c'est que je suis pas un robot où tu pousses on-off sur le bouton. Et j'ai l'impression que, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'adaptations, mais il me semble, il me semble que quand on a vu chacun et vécu ce qu'on a vécu pendant ce confinement, on ne peut pas reprendre. Alors il y a une injonction massive économiquement, mais je crois que chacun pour lui-même, on peut pas faire comme si on n'avait pas vu. Moi j'ai croisé un ami qui était un fan de foot, qui me dit moi je peux plus regarder du foot, je peux plus voir des mecs payer des milliers d'euros pour shooter dans un ballon, c'est con. Je dis mais non c'est pas con, oublie pas tout ce que t'as vu. Donc maintenant la question c'est comment on va se prendre cette injonction dans la face. Et j'ai l'impression, en tout cas, je vois autour de moi qu'elle est dure, moi-même j'ai dur. Qu'est-ce qu'on va en faire?
De quelle injonction tu parles, en fait?
Mais reprendre. Tu sais, moi là.
Reprendre l'activité.
Ouais. Donc ouais. Là, il faudrait retourner au resto, au café, dans les magasins. Là, moi, mon gamin, il doit retourner à l'école, mais la moitié de la journée. Mais moi, je peux pas encore retourner au boulot. Enfin, si, quand même, il faudrait que je bosse. Et c'est pour devenir dingue. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a une recette là pour rendre les gens massivement dingues. Plus maintenant que pendant cet arrêt, parce que j'ai l'impression que dans l'arrêt, il y a eu une onde de choc. Tout le monde a pris, tout le monde a fait comme il pouvait pour le vivre. Mais maintenant, il faut se remettre à dealer entre tout ce que t'as vu, ce que t'as réussi à faire, ce que tu veux plus. Je trouve que là, il y a quelque chose qui est très difficile. Et sur le collectif, nous, je crois que c'est clair qu'un désir puissant. Il y avait le premier politique qui était de dire « ne nous divisez pas, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous la première ligne », ça c'est le désir politique. Et puis il y a eu un grand besoin de faire ensemble, très rapidement, et je pense que c'était déjà un mouvement de résistance. Et maintenant, je redis, la question, c'est comment collectiviser ? Toi, il y avait la hiérarchie, je crois que ça, c'était pas très clair.
Non ? Oui, mais je voulais du coup dire quelque chose par rapport à ce que tu venais de dire. Moi, ce qui m'a frappé, peut-être, par rapport à ce que j'ai appris, mais ça, c'est vraiment une espèce de pensée d'aujourd'hui, donc elle est probablement un peu confuse. C'est, je me suis dit, mais c'est quand même curieux. Tout le monde s'est arrêté assez volontiers. Il n'y a pas eu de mouvement, de protestation contre. Et je me disais, c'est marrant, parce que nous, on nous associe toujours l'idée de liberté à l'idée de consommation, en permanence. Et aujourd'hui, ce qu'on demande de reprendre très fortement, c'est à consommer, c'est l'injonction, elle est là, très fort, à reprendre l'activité commerciale, à reprendre les vacances, les avions, etc. Or, ce qui, moi, me frappait, c'est en me disant, mais en fait, là, quand j'entends des gens parler qui ont souffert du confinement, ils ne souffrent, personne ne m'a dit, ah, vraiment, ça a été très, très difficile, j'ai pas pu aller en vacances ou à Runeuve tout de suite, etc. C'est l'absence de gens, l'absence de contact, mais même beaucoup plus ténue que ce qu'on nous habitue à penser, que c'est forcément une espèce de masse qui se déverse l'une sur l'autre en permanence et qui porte en elle son angoisse et qu'on retrouve maintenant, à mon avis, dans le retour vraiment massif. On le voit dans la ville, quand on sort, on a toutes les voitures. Et que, en fait, la liberté beaucoup plus ténue que cette histoire de consommation. Je ne sais pas si c'est clair.
Valérie ?
Je disais oui.
Ah. Ouais, je peux un dernier truc, juste une question qui m'est apparue ce week-end, parce qu'on a eu la grande chance de faire une fête et personne ne portait de masque. Et c'était très agréable et c'était comme avant. Il y a des choses de l'avant que moi je veux. Mais du coup, je me disais, tiens, la question, moi, qui m'habitait ces jours-ci, elle peut apparaître paradoxale, mais elle l'est pas. C'est d'un côté, j'ai aimé, et je trouve très beau le texte que t'as lu, Sana, parce que moi, je l'ai vécu comme ça aussi, donc il y a quelque chose que j'ai aimé, je dois l'admettre, et je dois le porter, en fait. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'on s'est laissé faire ? Qu'est-ce qu'on s'est laissé couper de nos parents, de nos familles, de nos amis, de... Et comme disait Sébastien au départ, les premiers temps du confinement, il n'y avait pas de règles légales. On a suivi un ordre des médias, il n'y avait pas de possibilité de mettre des amendes. Donc on s'est laissé massivement faire, même si à côté on a pu y éprouver du plaisir ou voir des ressources qu'on n'attendait pas. Et voilà, cette balance-là, moi, elle me... Voilà, donc, là il y a quelque chose qui m'appelle.
Moi, ce que je voudrais souligner aussi, c'est pourquoi on a tous un peu obéi, c'est parce qu'il y a eu beaucoup la peur.
Ouais.
La peur, parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, c'était très inédit dans l'histoire, justement, ce virus, se dire qu'il y aura la mort peut-être au bout. Et donc, voilà, tout le monde avait peur, et donc il y avait une surinformation au niveau des médias, justement. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit amen au gouvernement. Et voilà, donc c'est cette peur qui nous a tous paralysés. Mmh. Après, pour parler un petit peu de cette surconsommation, c'est vrai que maintenant, il devrait peut-être y avoir une petite remise en question, parce que là, on va peut-être droit au mur. On est dans une société moderne où tout doit aller vite, 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 vite. Il y a beaucoup d'argent, il y a des milliards en jeu qui sont là sur la table. Et c'est tout un débat qui peut être soulevé, justement. C'est un questionnement sur la société de demain, justement. Par rapport à la Chine, quelles sont ces puissances mondiales, tous ces enjeux stratégiques, justement, et ce virus, justement, a peut-être soulevé une question importante. Mm-hmm. Quant à notre devenir.